Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, le cinéma est-il encore au cinéma? Le développement considérable et très rapide des plateformes telles Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime Video, ainsi que les critiques récurrentes contre la marvelisation de Hollywood, c'est une expression de Martin Scorsese, et le développement non plus de films de cinéma mais de motion pictures, ainsi que les nomment certains réalisateurs de films à gros budget hollywoodiens, tout cela permet de se demander, à l'avant-veille des Oscars, où en est aujourd'hui le cinéma. Bien sûr, ces transformations auront et ont déjà des conséquences, par exemple sur l'écriture du cinéma, sur son financement et sur sa survie en tant qu'art. Nous allons en discuter avec Marie Masse-Monteil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes productrice chez Elsevier Film et présidente du Collège Cinéma du Syndicat des producteurs indépendants. Carole Desbarra est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice artistique des Rencontres Nationales du Havre sur les séries et ancienne directrice des études de la FEMIS. Et puis avec nous également Thomas Caillé. Bonsoir.
Bonsoir.
Un ancien de la FEMIS, réalisateur et scénariste du film Les Combattants et de deux séries pour Arte, Trépalium et Ad Vitam. On écoute tout de suite Martin Scorsese à propos de son film The Irishman, sorti à la fin du mois de novembre dernier, exclusivement sur Netflix et nommé dans 10 catégories aux Oscars 2020, dont la cérémonie a donc lieu dimanche.
Stupid little screen, that was terrible.
Stupide petit écran, c'est horrible. C'est fou. Et vous posez la question de Netflix. Il y a une réalité. Et au cours des 8-9 dernières années, on a tenté de faire ce film. Personne n'y était intéressé à Hollywood.
Ça paraît fou.
Mais oui, c'est la fin. C'est comme ça. De Niro ?
Non.
Al Pacino ? Non, non. Moi ? Pour ce type de film ?
Non.
J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Leonardo DiCaprio sur deux autres films. Et il y a eu beaucoup de soutien. Mais même certains de ces films-là, c'était un financement indépendant, pas par les studios. Et nous, on n'avait rien. Et finalement, principalement avec la décision de faire ce travail numérique, il n'y avait pas de choix.
Voilà, c'était donc Martin Scorsese, interviewé le 27 novembre dernier sur France Inter par Augustin Trapenard, expliquant qu'il n'avait pas de choix parce que pour faire The Irishman, qu'il avait proposé au grand studio hollywoodien, eh bien, personne n'avait voulu le financer avec des vedettes aussi importantes que Al Pacino ou encore que Robert De Niro. Et donc, il était passé par Netflix comme beaucoup d'autres. Bonsoir, Carole Desbarra.
Oui, mais écoutez, moi, je crains beaucoup que ce soit une politique extrêmement intelligente de Netflix qui consiste à vider le cinéma artistique de ses grands représentants, mais en même temps, on se met à la place d'un cinéaste à qui on propose de l'argent pour faire un film.
Et beaucoup d'argent pour le cas
de beaucoup d'argent, et qui n'en a pas eu ailleurs. On comprend qu'il le fasse.
Marie Masse-Monteil, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Parce que, évidemment, ce qui est impressionnant, c'est la rapidité de l'offensive Netflix. 2 ou 3 ans au maximum et une présence accrue sur des territoires comme la France avec plus de 6 millions d'abonnés. C'est ainsi que c'est annoncé. Et aussi une participation désormais à la création de films, à la création de séries sur le territoire européen.
Bah, déjà, pour répondre à la première question, le cinéma est-il au cinéma? A priori, en tous les cas, c'est l'attitude des Français, quel qu'il soit. Un film de cinéma, c'est un film qui est vu en salle. Et c'est là une raison juridique, en fait. Donc, pour nous, en France, c'est vrai que c'est paradoxal, mais les films de Scorsese ou de Noam Baumbach, c'est pas des films de cinéma, c'est des œuvres audiovisuelles. Enfin, c'est des films de cinéma parce qu'ils sortent dans leur pays d'origine, mais pour le public français, ce ne sera jamais des films de cinéma, sauf à les avoir vus dans des festivals. Mais la première réflexion que me donne votre interrogation, c'est heureusement qu'on est français. Parce que effectivement, en France, si vous voyez la natalité des films, des premiers films, Thomas est bien placé pour le savoir, et notamment cette année avec les Césars qui s'approchent également, on a une diversité absolument hallucinante.
Donc, diversité le style, diversité dans les approches, diversité
un système, une biosphère qui est capable de produire Atlantique, Les Misérables, Roubaix, Une Lumière, Alice et le Maire, et de coproduire Bacuro, Le Traître. Enfin, c'est quand même un cinéma. Et tout ça, ce sont des films qui sortent en salle, dans lesquels il n'y a pas d'aucune façon une intervention d'une plateforme. Et ce qui donne une grande liberté aussi bien aux réalisateurs scénaristes qu'aux producteurs, puisque la grande caractéristique du financement des films en France, c'est cette fameuse chronologie des médias qui fait qu'on a plusieurs partenaires potentiellement. On peut faire des films qu'avec Canal, on peut faire des films qu'avec France Télé, enfin c'est plus difficile. Mais grosso modo, personne réellement n'impose sa loi. Or, on peut imaginer qu'aujourd'hui, Netflix, il est un peu sympathique avec Scorsese ou les frères Safdie aussi, mais qu'à terme, ils pourront, s'ils contrôlent absolument l'ensemble de la chaîne d'exploitation du film, imposer leur loi et choisir de faire les films qu'ils veulent.
Vous êtes donc depuis peu de temps, on peut dire, Thomas Caillé, réalisateur. Vous avez travaillé à la fois pour le cinéma avec le film Les Combattants, qui a remporté un très grand succès. C'était il y a 5 ans maintenant, c'est ça?
Oui, c'est ça, 5 ans. Ouais.
5 ans. Et puis, effectivement, des séries pour Arte, donc des séries, une écriture différente, Trépalium ou encore Ad Vitam, qu'on retrouve d'ailleurs sur la plateforme Netflix, mais après avoir été diffusé sur Arte. Qu'est-ce que ça change d'avoir vu arriver cette offensive quand vous faisiez vos études, quand vous alliez vous préparer à devenir scénariste et réalisateur? J'imagine qu'il n'y avait pas du tout dans l'horizon cette question des plateformes et qu'on ne se posait pas ce type de questions. Il y avait un système qui s'était stabilisé au bout d'un certain temps et aujourd'hui ce système est légèrement, voire très déstabilisé.
Alors, ou qu'on ne l'ait pas vu arriver, ça c'est vrai. Pendant mes études à la FEMIS, je suis sorti en 2011, ni même après d'ailleurs, ni en faisant Les Combattants, c'est vrai, l'arrivée des plateformes c'est beaucoup plus récent, quoi. On l'a senti beaucoup plus récemment. En revanche, je me souviens que dès la FEMIS, on commençait à parler par exemple de séries télé, puisque c'était un phénomène nouveau, qu'il y a des séries intéressantes qui saisissent de problèmes contemporains. Donc ça, c'est un phénomène qui est monté en puissance durant toutes les années 2000-2010. Voilà. Après les plateformes, moi je partage à la fois le constat et peut-être les inquiétudes de Marie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le cinéma, il est au cinéma, ça, il n'y a pas de doute qu'il est encore là. Et on découvre des formes, c'est encore le lieu de découverte des formes, que ce soit de longs métrages, de court-métrage, de moyen-métrage,
c'est le documentaire aussi.
Le documentaire, il n'est pas qu'au cinéma, il est aussi sur les plateformes. J'ai découvert le film des frères Safdie avant-hier, j'ai vraiment trouvé ça génial.
Vous en parlez comme quelque chose que tout le monde a vu. C'est quoi le film des frères Safdie?
C'est Uncut James avec Adam Sandler, et c'est un film qui devrait être en salle. Enfin, je pense que en tout cas j'ai adoré le film et le regarder sur un écran d'une taille modeste. J'aurais évidemment préféré le voir au Max Linder à 14h.
Oui, c'est donc l'un et l'autre, vous dites de votre part, Thomas Caillé. Carole Desmarat, vous avez travaillé donc à la FEMIS où vous avez été directrice des études, mais ensuite vous êtes intéressée à cette question des séries en écrivant en particulier sur West Wing un livre aux éditions des PUF dans les collections d'analyse, pourrait-on dire, des grandes séries et en particulier les grandes séries américaines. Et puis désormais, vous vous occupez des rencontres nationales, vous êtes directrice artistique des rencontres nationales du Havre sur les séries. Ce qui a été dit à l'instant même, c'est-à-dire sur cette explosion des séries et donc ce chamboulement de tout l'audiovisuel sous l'arrivée massive à la fois de séries qui existaient avant Netflix et les grandes plateformes et qui se sont développées depuis. Vous l'avez ressenti aussi, ça?
Oui, et puis moi je suis comme vous, j'ai ressenti la rapidité de l'attaque, la blitzkrieg de Netflix. Et quand tout à l'heure je disais qu'ils étaient en train de vider non pas les cerveaux mais les talents, c'était évidemment pas un compliment. Et c'est sûr que on doit s'inquiéter et en même temps, moi je dirais plutôt faire face, parce que c'est là. Concernant les séries, c'est antérieur. Et quelque chose s'est passé, mais il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Mm-hmm. C'est autour du tournant du 21e siècle avec HBO, le travail qu'a fait cette chaîne qui n'était pas aussi asservie à la publicité que les networks et qui donc du coup a permis une liberté de ton et une liberté artistique à ceux qui ont fait aussi bien les Sopranos que The Wire, pour citer les plus grandes, qui nous a alertés. On s'est dit, ah là, il y a quelque chose qui se passe. Et par rapport à la question série, cinéma, moi, je vois avec mon grand âge et amusement se rejouer la guerre que j'ai connue il y a bien longtemps, à l'époque où on disait que le cinéma, c'est un mauvais objet et qu'il fallait pas réfléchir sur le cinéma, que c'était pas sérieux, et que les gens, ensuite, de la nouvelle vague, ont travaillé à dire « mais non, ce sont des objets d'art et méritent qu'on écrive dessus ». Et actuellement, la tension est grande. Sur un côté picrocolin quand même, hein. Si on prend l'association des critiques de séries, vous les mettez hors d'eux si vous dites que il y a un lien entre le cinéma et les séries. Ils vous disent non, c'est complètement différent. Mais bien sûr que non. Il y a un lien. Mais comme il y avait un lien entre la photographie et la peinture. Ou tout au moins la peinture d'abord et la photographie après. Et les séries, c'est la continuation du cinéma par d'autres moyens.
Écoutons Brian De Palma, grand inspiré par la nouvelle vague dont vous parliez à l'instant même, Carole Lesbara. Il parlait sur France Inter, dans l'émission Boomerang, de Augustin Trapenard. C'était le 31 mai 2018 et il dézinguait Netflix.
Moi, je fais des films qui doivent être vus sur grand écran. Et ça devient de plus en plus difficile, parce que c'est difficile de se faire budgéter, de se faire financer.
Quel avenir est-ce que vous voyez au cinéma, vous ?
Ça dépend ce qu'on veut dire par cinéma. Si c'est tout ce qu'on voit sur Netflix, est-ce que c'est du cinéma ? Il y a des images. Elles sont petites, ces images. Et elles racontent des histoires très romanesques, en série. C'est un nouveau format. Parce que c'est comme dans l'ancien système des studios. Tous les acteurs sont sous contrat, des contrats à long terme. Les scénaristes sont les rois parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Les réalisateurs, ils viennent pour faire, pour tendre les câbles, et puis c'est tout. Et puis on ne peut pas faire la différence entre un réalisateur et un autre. Et c'est pas un endroit où j'aimerais être, moi.
Voilà ce que disait Brian De Palma en 2018 sur France Inter. Marie Masse-Monteil, les scénaristes sont les rois. C'est peut-être aussi quelque chose de très important que de signaler à nos auditeurs qu'effectivement, il y a peut-être pas eu un renversement de tendance, mais que cette nouvelle vague dont est admirateur Brian De Palma, un héritier de cette nouvelle vague, on peut dire que, eh bien, elle s'est peut-être terminée avec le cinéaste roi, le réalisateur qui a le final cut, etc. Parce que ces types de plateformes, eh bien, donnent beaucoup de place aux showrunners, comme on dit, ou aux scénaristes.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on confond un peu tout, là. Mmh. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Carole, parce que, en fait, il y a le cinéma. Le cinéma, c'est une œuvre unitaire, dans laquelle, en tous les cas, pour les Français, et sans doute pour les Américains, y compris pour Netflix, c'est le réalisateur qui est au cœur du projet. Sur les séries, c'est effectivement, de mon point de vue, quand même, en tous les cas aux États-Unis, plutôt les scénaristes ou les créateurs qui sont de la série. La preuve.
Mais quand une plateforme comme Netflix finance à la fois des films et des séries, on peut faire la comparaison ou on peut faire la confusion parfois aussi. On peut se dire, tout compte fait, c'est le même endroit où on regarde des films et des séries, des films d'auteurs et des.
Ils ont plus de contrôle sur les séries. C'est-à-dire, la preuve, c'est que la série la plus chère de tous les temps, enfin, à part celle de Apple TV, c'était Game of Thrones et on est incapable de citer un réalisateur. Par contre, on sait même dans enfin la dernière saison, il y a quand même des épisodes qui sont assez impressionnants au niveau réalisation, mais je sais pas qui l'a réalisé. Par contre, comme ça, je peux retrouver le nom des deux créateurs de la série. Voilà. Après, en France, il faudrait demander à Thomas aussi. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on travaille sur la série, donc il y a un objet qui est travaillé avec une chaîne de télévision. La chaîne de télévision, elle est vraiment coproductrice de la série. On travaille main dans la main, enfin moi, y compris Arte d'ailleurs. Enfin moi, j'ai travaillé, j'ai fait un film unitaire qui s'appelle Jonas de Christophe Charrier. On a travaillé main dans la main avec la Isabelle Huige d'Arte. Et elle était très, non pas interventionniste, parce qu'elle disait vraiment des choses intelligentes, mais enfin, on était ensemble, c'était une coproduction. Je ne sais pas si c'était la même chose pour toi sur Ad Vitam, mais c'est vrai que je reviens sur le fait que quand on décide, moi, de produire un film ou le réalisateur de se lancer dans l'écriture d'un long métrage et qu'on se met d'accord, je ne me pose pas la question, enfin je me demande si le film va être viable et si j'aurai les moyens de le financer, mais je ne vais pas aller demander à Laurent Hassid chez Canal ou Nécessine Négrier ou machin de me donner des conseils de casting ou d'écriture. Ça leur plaît, ça ne leur plaît pas. S'ils ne veulent pas le faire, je trouverai d'autres solutions, je ne ferai pas le film. Mais ils ne sont pas coproducteurs.
Thomas Caillé.
Écoutez, moi j'ai eu la chance en tout cas de travailler avec des gens qui étaient très partie prenante du projet et qui nous ont laissé une très grande liberté. Après il y avait des réunions effectivement durant l'écriture, ce qui est tout à fait logique, normal et qui fait du bien parce qu'on a besoin de retour. Mais c'était un cadre qui est quand même, enfin pour le coup, un écosystème qui est très particulier, qui est celui d'Arte. Je pense que il y a une très grande bienveillance et un accueil des projets qui est différent sans doute dans d'autres chaînes. Chez Netflix, je sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écriture sérielle a besoin d'être quand on écrit une série, la partie narrative est peut-être plus importante proportionnellement que la mise en scène. C'est plutôt ça que là-dessus qu'on va passer du temps. Du coup, c'est pour ça qu'il y a que l'importance est donnée au showrunner ou au créateur, celui qui tiendra l'effort sur toute la durée. Alors que quand on voit que beaucoup de séries utilisent plusieurs réalisateurs, bon là ça devient autre chose. Moi c'est pas mon cas, j'ai fait effectivement cette série Ad Vitam, je l'ai écrite et réalisée de bout en bout. Du coup le débat est pas exactement le même. C'est pas, en tout cas je suis pas dans le cadre pur de la création de séries à l'américaine.
On disait, je lisais un article de Julia Badacchino dans Nectar qui nous disait que désormais, par exemple, la télévision a changé par rapport à certains cadres que l'on imposait aux réalisateurs de télévision, en particulier que désormais la télévision acceptait les plans larges, qu'elle acceptait les plans séquences, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ou 15 ans, et que donc, d'une certaine façon, il ne voyait pas, lui, de son côté, la grammaire visuelle des séries et du cinéma si distantes l'une de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ?
Je mettrai un bémol là-dessus. C'est vrai sur la, sur ce que vous dites, à savoir il n'y a pas de plan interdit, il y a quasiment rien interdit en vérité. Si montrer de l'alcool et des cigarettes, c'est toujours un peu problématique en télévision. Mais
pourtant Mad Men l'a fait. Hein.
Et pourtant, c'est presque même le sujet. La différence, c'est le nombre de jours de tournage. C'est que quand on doit faire 50 minutes utiles en 10-12 jours de tournage, on peut bien évidemment pas prendre le même souci du détail que lorsqu'on a le double ou le triple de temps. Ça, c'est une évidence.
Carole Desmarat, est-ce que quand Stéphane Delorme, des Cahiers du cinéma, en janvier dernier, écrit un éditorial qui d'ailleurs nous a plus ou moins donné envie de réfléchir à cette question-là, et qu'il dit le signifiant cinéma brûle de tous les côtés. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'évidemment, il y a ce qu'on vient de dire à propos des séries, mais il y a aussi, et c'est un autre pan de la discussion, ce brûlot lancé par Martin Scorsese contre le Hollywood qui ne serait plus dans Hollywood, une sorte de Hollywood qui aurait trahi sa promesse de baptême.
Écoutez, dans les années 50, on a dit que le cinéma allait mourir à cause de la télé. Dans les années 80, ça a été à cause de la VHS.
Et de la vidéo.
Dans les années 2000, ça a été le DVD. Ouais. Et là, maintenant, on est en train de dire que c'est Netflix.
Et qu'il allait mourir aussi des abonnements, vous savez, de la façon dont on peut rentrer dans des salles aujourd'hui avec des
oui,
cartes d'abonnés.
Exact,
on
tout
a
à
dit
fait.
Ça aussi. Ouais,
c'est vrai. C'est vrai que l'arrivée de Netflix, moi, je la séparerais de la question des séries. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tout à craindre de la façon dont l'emprise américaine du business américain peut avoir quelque chose de très dangereux sur la façon dont on fait de l'art en France. Ça, moi, là, vraiment, je suis complètement inquiète là-dessus. En revanche...
Pourtant, notre ministre reçoit le patron de Netflix et visiblement, ça se passe bien. Il imagine que Netflix participera au financement du cinéma français, qu'il aidera justement un cinéma qui est un peu plus en difficulté parce que les chaînes traditionnelles ont moins d'auditeurs, ont moins de chiffres d'affaires, etc. etc.
Wait and see. Moi, j'ai vu beaucoup de films américains, hollywoodiens. Je sais qu'il faut attendre pour que le mal se révèle. Donc, je ne suis pas du tout confiante sur le sujet. En revanche, c'est vrai que dans les séries, par rapport à ce que vous avez dit avant, il y a quelque chose qui a bougé. C'est une question du pouvoir. Quand le numérique est arrivé, on a dit que le pouvoir changeait au niveau de l'image. C'est-à-dire que, sur un plateau, vous aviez tout le monde qui venait auprès du combo et qui voyait l'image, à l'époque où s'il y avait que le réalisateur et le chef-op qui le voyait. Donc ça a changé une disposition sur le plateau. Là, l'importance des scénaristes, elle est très grande. C'est vrai, Marie, vous avez raison. Maintenant, je voudrais juste rappeler que sur le budget d'une série, un scénariste et le scénario, c'est 4%. Sur le cinéma, c'est 3%. C'est donc rien du tout. Donc la reconnaissance économique, elle n'est pas là. En revanche, c'est vrai que la writer's room à l'américaine, c'est quelque chose qui a
c'est-à-dire
donné...
l'atelier d'écriture.
Oui, vous avez raison. L'atelier d'écriture dans lequel il y a beaucoup de scénaristes en même temps et non pas les uns après les autres, comme ça se faisait avant à Hollywood, la séance du baiser était faite par un tel, celle de l'attaque du train par quelqu'un d'autre, etc. Là, ils sont ensemble sous la direction du showrunner. Ça redistribue la question de la créativité autrement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les séries en ce moment, c'est de voir, et en particulier en France, ce qui est en train de se passer, parce que ça bouge un peu, je trouve, au niveau de la place des réalisateurs. Je trouve que en France, dans les séries, les réalisateurs, à cause de notre tradition du cinéma d'auteur, sont en train d'avoir une place un peu plus importante qu'aux États-Unis.
It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened.
Frank, I want you to meet my cousin, Russell Bufalino.
Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so.
I was one of 1,000 working stiffs. Until I wasn't no more.
You got a good friend here. You don't know how good a friend you got.
I know you read a lot of things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad. I know that. I know that. I was just trying to protect all of you.
From what?
You didn't see what I see, what I've been through. Whatever you need me to do, I'm available.
Only three people in the world have one of these, and only one of them is Irish.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous l'avez reconnu avec une bande-son un peu forte peut-être, avec des tambours qui ressemblent à ceux de Game of Thrones. C'était un extrait de The Irishman de Martin Scorsese, donc produit par la plateforme Netflix, qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci. Marie-Mas Monteil, qu'est-ce que vous pensez justement de ce cinéma qui brûle de tous les côtés, d'après Stéphane Delorme des Cahiers du Cinéma, avec en particulier les questions qui sont liées aux grands studios hollywoodiens qui ne feraient plus que du Marvel, comme le dit Martin Scorsese, et puis de l'autre côté, effectivement, cette question de ces plateformes qui financent désormais du cinéma d'auteur.
Bah, il va falloir qu'on en prenne, comme on a toujours su faire en France. Alors j'espère que les uns et les autres, enfin les fameux lobbyistes, les professionnels de la profession, on sera aussi intelligents que nos prédécesseurs pour faire rentrer à chaque fois ce qui nous menace dans le magnifique système de régulation du cinéma. Puisqu'on a fait rentrer la télévision, on a fait rentrer la vidéo. Alors maintenant, la vraie question, parce que c'est pas tout à fait au même niveau de faire rentrer les salles de cinéma françaises et les chaînes de télévision françaises et la vidéo française dans le mécanisme de financement du cinéma et Red Hastings, Jeff Bezos et Bob Iger qui sont américains.
Red Hastings, c'est le patron de Netflix, et puis Jeff Bezos, c'est celui d'Amazon, et
Bob Iger, c'est Disney.
C'est celui de Disney.
Donc si vous voulez, en fait le problème, c'est que je pense que il va y avoir une loi audiovisuelle, j'en parle très rapidement, qui part d'un constat qui est pas idiot, qui est de dire Netflix, Amazon et les autres taillent des croupières, particulièrement aux chaînes payantes françaises, c'est-à-dire
Canal+
et OCS. Elle s'adresse au public français, donc elle devrait intervenir, c'est une bonne idée, dans le financement de la création française, cinéma et audiovisuel.
À hauteur de 25% du CA de Netflix, par exemple, c'est ce qu'on leur demande.
De Netflix et des autres aussi.
Pour faire de la production locale, la production en France aussi.
Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de couloir cinéma, couloir audio, on dit qu'il faut qu'il y ait une différenciation entre les deux.
Qu'est-ce que vous appelez couloir cinéma, couloir audio?
En général, les chaînes françaises, elles ont des obligations pour le cinéma. Par exemple, les chaînes Canal+, c'est 12,5 pour le cinéma et 3,8 pour l'audiovisuel. Mm-hmm. Donc, c'est des couloirs séparés en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc là, on dit que c'est 25% à l'intérieur d'un grand tout. Alors nous, puisque moi je fais partie des professionnels de la profession, on a dit oui, attention, parce que il faut pas mutualiser les obligations télé cinéma, puisque naturellement ils vont faire que de la télé, que des œuvres audiovisuelles, puisque c'est ce qui est vraiment leur intérêt propre. Et puis en même temps on a dit ça, et puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas tellement envie qu'ils viennent financer le cinéma. J'exprime à titre totalement personnel cette idée. Si on a envie qu'ils viennent financer le cinéma, mais dans les mêmes conditions que les Français, en fait. Et là, on va ouvrir
Vous craignez une sorte de disparition du financement à la française, tel qu'il s'est construit depuis la Libération jusqu'à aujourd'hui, sous les coups, justement, de l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont d'autres règles que les nôtres.
C'est ce que vous... C'est-à-dire que Netflix, grosso modo, ce qu'ils veulent, manifestement, et puis c'est bien normal.
Il faut dire qu'on avait lancé une invitation à Netflix et qu'ils n'ont pas pu venir, donc ils auraient pu se défendre vis-à-vis de ces attaques.
Non, mais un jour, on a discuté avec le patron des relations institutionnelles de Netflix, et nous a expliqué qu'il voulait apporter de la joie aux subscribers. Il veut apporter de la joie
À ceux qui souscrivent.
À voilà. Donc déjà, on était un peu, ça faisait un peu peur quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Netflix, ce qu'ils veulent, c'est avoir des œuvres, quelles qu'elles soient, dont on parle, effectivement, et qui sont en priorité adressées aux abonnés de Netflix. Et qu'en fait, la question de la salle, pour eux, c'est plus du prestige ou une vitrine où ils font des gros coups. Parce qu'effectivement, Scorsese, il n'arrivait plus à financer ses films. Alors, les frères Safdie, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Voilà. Donc nous, effectivement, il ne faudrait pas, en se disant, oui, Canal, ils ont des problèmes, les chaînes publiques ont des problèmes qui sont bien organisés par les pouvoirs publics, d'ailleurs, puisqu'on baisse la redevance, comme vous le savez. On supprime France 4, ça veut dire qu'on va avoir des chaînes, notamment, qui vont devoir récupérer les dessins animés. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Donc, les pouvoirs publics, ils disent, oui, les chaînes françaises, elles ont moins les moyens de financer la création française. Donc, on va aller chercher les Américains, mais il faut absolument que les Américains jouent le jeu et qu'on ne soit pas obligé de changer la chronologie des médias et qu'ils acceptent d'avoir les mêmes règles.
La chronologie des médias, un mot pour expliquer à nos auditeurs, c'est donc la façon dont on a calculé la sortie en salle, la sortie sur les chaînes de télévision, la sortie en DVD, en vidéo, etc. etc. C'est ça la chronologie des médias?
Pour aller vite, la chronologie des médias, c'est hyper intelligent, c'est la multipropriété, c'est-à-dire que chaque partenaire qui finance le film a droit pendant un certain temps à avoir la jouissance exclusive du film et à la fin, la propriété revient au producteur et aux ayants droit, c'est-à-dire le réalisateur et le scénariste.
Carole Desmarins.
Mais si vous voulez, je crois qu'il y a un problème un peu spécifique dont il faut davantage parler, on l'a évoqué, c'est la question de la salle. Parce qu'il y a un enjeu énorme dans la salle. Très récemment, j'ai préparé une conférence sur Paul Schrader. J'ai regardé son film, son dernier film, First Reform, et il y a une séquence de lévitation. Je voyais ça chez moi avec mon carnet, je regardais, je prenais des notes. Je trouvais ça d'un ringard total, le couple qui s'élève dans le ciel. Et je l'ai vu ensuite sur un grand écran au Forum des Images. C'était magique. Donc je me suis traité de tous les noms, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça m'a fait aussi réfléchir. Je crois que l'enjeu, il est très grand. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. En novembre dernier, le département fédéral de la justice américain a décidé d'abolir le décret Paramount qui, depuis 1948, empêchait les majors de posséder des salles et donc de dominer complètement la programmation. Alors le problème pour moi, c'est que le décret a été précédé d'auditions de professionnels pour qui la salle n'est plus un élément structurel.
Ben oui, on appelle ça des motion pictures aujourd'hui.
Tout à fait, absolument. Et je mets ça en écho de l'interview de M. Boutonnat il y a 10 jours.
Donc, qui disait nouveau président du CNC.
Voilà, que je vais citer, où il dit cette petite phrase qui n'a pas été développée mais qui, moi, m'inquiète. Certains films pourraient trouver une exploitation immédiate sur d'autres supports que la salle.
Oui, mais de toute façon, on sait bien qu'il y a eu, à une époque, quand la vidéo est arrivée, il y a eu direct to the video, c'est comme ça qu'on appelait ça, je crois. C'est-à-dire qu'on faisait des films qui n'allaient pas en salle et qui sortaient tout de suite en vidéo, qui
étaient une sorte de
film.
En France.
Pas en France,
non,
pas en non, France.
Non. Mais il y a eu vraiment, on s'est tous levés pour lutter contre ça.
Thomas Caillé. Sur ces questions et en particulier sur l'usage de la salle. Vous avez travaillé pour la série, vous avez travaillé pour des films et vous êtes en train d'ailleurs d'en écrire un nouveau. Les combattants ont eu un énorme succès au moment où ils sont parus en 2014. Donc vous savez ce que c'est que d'écrire pour l'un
et
pour l'autre.
C'est très différent même de il n'y a pas que l'écriture, hein, c'est aussi concevoir le film, le fabriquer. Pour le dire assez simplement, enfin moi, quelque chose dont je me suis rendu compte assez rapidement en passant d'un format à l'autre, c'est que une fois qu'on a son scénario et qu'on le tourne, qu'on le fabrique, qu'on a cette matière, qu'on malaxe pendant un certain temps, on la torture au montage, on arrive à refabriquer des choses. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui reviennent, et il y a finalement des séquences sur lesquelles on va donner énormément de temps, alors que d'autres on va les densifier et on refabrique une forme. Elle est parfois assez proche du scénario de base, parfois à certains endroits très différents, mais c'est le travail face à la grande image qui fait la durée des plans. Quand on travaille sur une série, il y a des outils de structure locale, de structure dramatique locale, parce qu'une série, c'est en 52 minutes, on la commence et on la finit à chaque épisode. On commence et on finit chaque épisode. Donc il y a des structures qui sont beaucoup plus tenues. Et finalement, tout ce qu'on tourne, quasiment tout ce qu'on tourne, on le monte. Mmh. C'est très différent, quoi. C'est-à-dire que le rapport à l'image, le rapport à ce qu'on fabrique est pas vécu dans la même expérience. C'est là où la narration devient très importante en série et que si on la loupe, finalement, on loupe tout le reste. C'est là où au cinéma, il y a autre chose qui se passe aussi. Et cette autre chose, il est rendu possible par le, par l'image, par, et je crois aussi beaucoup par le rapport à la salle.
Et par le montage aussi.
Dans oui,
le...
absolument. Mais c'est vraiment, c'est un rapport qui est dans la sensation. Beaucoup plus dans la sensation que dans la compréhension de ce qui se passe.
Marie Masse-Monteil.
Oui, je pense que ce que vient de dire Carole et puis Thomas est vachement important. C'est-à-dire que, en fait, la liberté qu'on peut avoir, c'est décider en amont. Pour moi, c'est très important. Décider en amont, en tant que productrice, quand j'ai un projet qui arrive, en accord avec le réalisateur, de dire, bon, bah, à mon avis, la bonne idée, c'est de travailler pour le cinéma, donc la salle. Travailler pour Arte, par exemple, l'unitaire Christophe Charrier, Jonas, fait 2 millions de spectateurs. Ou éventuellement travailler pour une plateforme. Mais on a fait l'expérience avec Thomas, tous les deux, la même année. On était un peu concurrents sur les prix, mais on avait à la fois Party Girl et Les Combattants. Et moi, j'aurais pas voulu qu'on me dise, que quelqu'un me dise, bah, Party Girl, c'était pas gagnant au départ, et Les Combattants non plus, qu'on me dise, bon, ton petit film hyper fragile, avec des acteurs inconnus, t'as qu'à le faire sur une plateforme. Ne prends pas le risque de le faire au cinéma. Potentiellement, tu vas faire, et ce qu'on pensait d'ailleurs, nous aussi, au départ, 15 000 entrées. Et total, bah, effectivement, ces deux films, je pense que ils ont eu le succès qu'ils ont eu.
Et mérité.
Et effectivement, moi, on est parti en se disant, ça sera un film de cinéma, quoi qu'il arrive, et même s'il reste une semaine en salle, ce sera un film de cinéma. Et donc, il faut qu'on ait la possibilité de décider où on veut mettre le film et qu'on ne l'impose pas.
Mais il y a tout de même une nuance à apporter à tout ce que vous dites, c'est que la salle, elle accueille tout. Elle accueille les films de Scorsese, elle accueille les films de Thomas Cayet, et elle accueille les Marvel. Et tout de même, l'attaque de Scorsese, au départ, lui-même passé du côté de Netflix, pourrait-on dire, c'est contre la marvelisation de Hollywood, c'est contre l'idée que ce sont des parcs à thème plutôt que du cinéma, dit-il dans son interview du New York Times. Il dit le cinéma crée l'inattendu, alors que les films de super-héros, il n'y a aucun risque, selon un réalisateur de Hollywood qui travaille pour les films de super-héros. Il dit ce sont des produits manufacturés parfaits pour la consommation immédiate, Carole Desbarra.
Oui, oui, mais là, c'est un véritable problème. Il faut voir que Marvel, les studios Marvel ont fait, en 11 ans, 23 épisodes Marvel. 23 films Marvel sortis en salle. Le problème qui se pose, c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup de Marvel, c'est qu'ils prennent la place du film de Claire Burger et Marie Machoukeli que vous avez produit, Marie, Party Girl. C'est qu'effectivement, s'il y a 3 Avengers et compagnie dans une salle, il n'y a plus l'écran pour Les Combattants ou bien pour Party Girl. Et il est là le problème. C'est pour ça que je dis que la salle, c'est non seulement la question de la perception dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la question de la diversité possible. Il faut qu'on se rende compte aussi que la France est un pays extraordinaire sur au moins une chose. On a une innervation du territoire extraordinaire. Il y a des salles de cinéma municipales ou pas partout en France.
Marie Masse-Monteil et puis Thomas Cayet.
Non, parce que je viens d'apprendre, là, ce matin, il y avait un article dans le journal, alors j'espère pas dire une bêtise, c'est que Disney, qui a racheté Fox, a demandé à Fox de faire du super-héros maintenant. Mmh. Alors que Fox Searchlight, qui s'appelle plus Fox Searchlight, mais 20 Century, je crois, ils vont devoir développer les super-héros qu'ils avaient dans leur catalogue. Donc, si vous voulez, voilà, c'est ça la diversité à l'américaine.
Thomas Cayet.
Alors c'est un peu neuf dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi autre chose qui se développe en marge de la marvelisation, qui est une autre façon de faire du cinéma grand public pour des grands auteurs américains. J'ai l'impression de voir une sorte de lien un peu invisible entre des films comme Gravity, The Revenant, 1917, même Ad Astra, ce qui est hyper étonnant parce que c'est quand même James Gray, mais c'est quand même des films qui passent tous par une espèce de d'apnée sensorielle côté film en plan séquence avec énormément de courses-poursuites qui ont parfois pas grand-chose à voir avec ce que le film traite au fond. Là, je pense par rapport à Ad Astra, on a vraiment l'impression qu'il y a des scènes catastrophes qui sont un peu collées, posées par-dessus pour que ça fasse expérience cinéma. Et finalement, ça vient de Marvel. Je pense que ça vient de l'idée d'aller voir des blockbusters au cinéma. Donc, si on est Cuaron, Iñárritu, Mendes ou James Gray, on peut continuer à travailler au cinéma à ce prix-là. Par contre, si on veut faire Irishman, effectivement, faut le faire chez Netflix.
Une question qui se pose, c'est la question qui était posée par Dominique Boutonnat dans cette interview qu'il a donnée en tant que président du CNC au Monde. C'était il y a une dizaine de jours. Comment faire revenir les jeunes en salle quand on sait que la plupart d'entre eux, disait-il, vont plutôt du côté des films Marvel, justement, et que les salles sont très chères. Il y a aussi le prix des places de cinéma, souvent, qui sont assez élevées. Carole Desmarins.
Ah oui, il faut commencer par ça. Il faut commencer par le prix. Parce qu'effectivement, pour un jeune étudiant, ou même un collégien, 12 euros, 10 euros, ça dépend. C'est vraiment beaucoup et c'est trop. Ça, c'est une première chose. Je sais qu'en Angleterre, il y a des expériences qui ont été faites pour baisser le prix. Il existe des formules, à mon souvenir, ça existe encore, une formule à 4 euros pour les moins de 14 ans, ce qui est une bonne chose et qui a donné des résultats, d'ailleurs. Mais la question qui se pose, c'est que les moins de 14 ans, quand ils vont dans un circuit bénéficier d'une place à 4 euros, ils vont aller voir ce que, je crois, le marché leur impose. Je veux dire, par là, ils vont voir sur quoi il y a le plus de marketing. Et ils vont pas aller voir un Kiarostami qui peut-être leur plairait sur un gosse qui arrive pas à rentrer dans un match de foot.
Mais ou bien Jacques Demy. C'est ce que disait Scorsese, qui disait dans beaucoup de pays, les films de franchise, les films donc Marvel, les autres de super-héros, sont les premiers choix quand vous voulez voir quelque chose sur un grand écran. Ça impose son choix d'une certaine façon.
Tout à fait, tout à fait. Et là, le partenaire invisible maintenant, dont on ne parle plus, mais qui devrait être quand même très important, c'est le ministère de l'Éducation nationale. On a pendant très longtemps été très très fort sur les dispositifs dans l'éducation à l'image.
Marie Masse-Monteil, sur ces questions justement de façon dont il est difficile quand on est jeune d'aller en salle et les propositions qui sont faites par le CNC ces temps-ci, en tout cas par son président, de dire il faut les faire revenir en salle. Vous avez une idée, vous ?
Non, mais à la base, ce qu'il dit aussi, c'est que donc effectivement, avant, il y avait 38% du public qui étaient des jeunes, des moins de 25 ans, maintenant c'est 28% et que c'est pas qu'ils vont, ils vont seulement 4 fois par an au cinéma voir des films Marvel. Bon. Ok, la solution, elle passe par l'éducation. Enfin, moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Carole, au ciné-club, à toutes ces choses-là.
Qui était une pratique française et développée depuis maintenant plus de 70 ans.
Bah oui, je pense qu'il faut leur redonner envie d'avoir envie. Enfin, c'est aussi bête que ça. Moi, j'ai montré Vavier de Vien qui fait 2h20 à des mômes. Je pensais qu'ils allaient trouver ça insupportable. Ils sont tous restés jusqu'à la fin. Bon, bah voilà.
Et avoir envie d'avoir envie, c'est un titre de Johnny Hallyday. On peut pas faire plus français, en l'occurrence. Thomas Caillé, justement, sur ces questions de comment faire revenir les jeunes publics.
J'ai beaucoup accompagné mon film dans des dispositifs de l'éducation nationale et c'était ça s'est à chaque fois extrêmement bien passé. Alors ce qui est marrant, c'est que je me souviens même à la sortie salle, je dis pas ça pour défendre ma chapelle, hein, je dis simplement que qui seraient pas forcément allés le voir comme ça directement s'il y avait effectivement une offre en face américaine, etc. Mais je me souviens même que lors de la sortie salle, on furette un peu au bord des fils pour entendre ce qui se dit et j'entendais des jeunes gens sortir du film en disant « Ah, finalement, c'était bien. T'as vu, je pensais pas, c'est français.
» Oui, oui.
Il y a quelque chose à casser aussi là-dessus. Et effectivement, ça peut être que de l'éducation. Parce qu'on voit très bien que quand on montre un Piala à des collégiens, ils adorent, en fait.
On verra donc si dimanche, au moment des Oscars, eh bien, c'est Netflix qui est récompensé le plus souvent ou si ce sont d'autres auteurs qui le sont. Et puis, on s'intéressera évidemment au sort de donc et des Misérables lors de cette cérémonie des Oscars. Merci à vous Marie Masse-Monteil d'être venue, merci Carole Desbarra et merci Thomas Caillé. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Manon Prissé à la technique d'Alilia et à la réalisation Assia Ralide.